relayer sur ce qui se passe ici et ailleurs.
Having met with the owners of Canada over the course of the campaign, it's not for sale, won't be for sale, ever.
Les enjeux qui te concernent.
Je ne sais pas comment le dire, là. Je vais être là en octobre 2026. Je veux un troisième mandat.
Le plus gagnant de la veille. La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Pas le choix de mettre ma graine de sel là-dessus, là.
Hein?
Ça,
quoi?
Une graine?
Ben, ça se dit pas du tout.
C'est un grain de sel.
Boulevard 102.1. Du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir, Québec. Bienvenue sur les zones de Boulevard 102.1. Espérant que t'aies passé un super de beau week-end de trois jours. Quoi? T'as eu juste eu deux jours? Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, t'as eu deux jours de congé. Mais pour les chanceux qui en ont eu trois, ben, je vous salue. En fait, je salue tout le monde, tiens, devrais-je dire. Avant de débuter le podcast de Marceau le soir, on va regarder ce qui se passe côté météo. Ce sera des nuages pour ce soir avec peut-être des vents légers. On nous parle des rafales à 50 km/h. Je n'appelle pas ça léger, mais pour les gens d'Environnement Canada, ils nous disent « rafales à 50 km/h ». Devenant léger, voilà, donc je comprends. Désolé, pas très vite. Minimum de 6 degrés. Pour ce qui est de demain, mercredi, ce sera généralement nuageux avec un maximum de 18 degrés. En soirée, des nuages, minimum de 7 degrés. Jeudi, jour de paye, ce sera nuageux avec un maximum de 14 degrés. Et vendredi, pour terminer cette semaine de travail de 4 jours, nuageuse. Ce sera de la pluie intermittente avec un maximum de 12 degrés. Pour ce qui est du week-end, il y aurait dimanche là, le retour du soleil, mais je ne vais pas plus loin. Ça risque de changer. Du moins, on va se le souhaiter. En espérant que vous ayez passé une belle journée, un excellent 60 minutes s'en vient dans les prochaines secondes, puisque c'est Samuel Tremblay-Michaud, notre chroniqueur automobile, qui sera avec nous. On va parler du merveilleux monde de l'automobile puis plein d'autres patentes dans les prochaines secondes. À partir du moment où je paye sur le piton. Bonne soirée, les amis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Samuel Tremblay-Michaud, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Pendant la pause, j'étais en train de faire un tour là, sur le site d'RPM Web. Là, je voyais les véhicules, les différents véhicules qui ont marqué l'enfance de votre auditoire. Puis je suis parti à rêver, sérieux. Il y a des véhicules que je me souviens, là, que je me souvenais plus. Le fameux Chevrolet Caprice Estate 1973, là. Moi, quand j'étais jeune et bébé, je me souviens d'avoir embarqué là-dedans et j'étais sur la banquette avant avec mon père et sa conjointe de l'époque. Puis il y aurait eu de la place encore pour un autre enfant à côté de nous autres. Bon Dieu que c'était large, mais c'est des souvenirs incommensurables en ma mémoire.
Ben oui, puis c'est le fun de faire ça. On aime toujours ça, vous jaser, tu sais, jaser au monde qui aime les chars, puis... c'est l'équipe là, qui avait fait un petit sondage justement pour recenser les voitures des gens qui suivent la page de RPM. Puis tu sais, tu parles de souvenirs, là. C'est un incubateur de souvenirs, ce genre d'exercice-là, parce que justement, on découvre des voitures, puis ça nous rappelle tellement plein de choses. Tu sais, l'automobile a tellement évolué, puis tu sais, souvent, il y a des gens, puis c'est drôle, parce que dernièrement, je m'obstinais avec mon frère là-dessus, mais tu sais, des gens qui se disent... Ouais, mais tu sais, les voitures d'aujourd'hui sont moins solides qu'avant. Elles sont moins durables. Elles ont plus de technologie. C'est drôle, là, mais quand on regarde sur le chemin, là, il n'en reste plus beaucoup de ces vieilles voitures-là. Souvent, ce qui s'est passé, bien, c'est que peut-être qu'ils n'étaient pas durables, mais c'était des voitures qui avaient besoin de beaucoup plus d'entretien. La culture de l'automobile était différente aussi. On changeait beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement nos voitures également. Puis tout ça, bien, c'est sûr que ça a amené la disparition de certains modèles emblématiques, dont cette Caprice qui, malheureusement, n'est plus sur les routes. Ouais. Puis si on en trouve, écoute, c'est un miracle, là, littéralement.
Toi, t'es chroniqueur automobile, fait que j'imagine que tu as toujours les deux mains dans la recette, là, mais moi, de mon côté, je me souviens que... Ben, en tout cas, de mémoire, ces voitures-là, quand ils étaient entre 200 et 300 000 kilos, là, ils étaient en fin de vie, alors qu'aujourd'hui, un véhicule qui est bien entretenu, on peut le faire rouler, là, comme on dit, ça roule comme une bille, dépasser ce 300 000 kilos-là.
Ben oui. Puis, tu sais, oui, souvent, je sais qu'il y a des gens qui font de la mécanique qui vont me dire, tu disais pas de quoi. Tu sais, les injecteurs rasteurs, les injecteurs directs, c'est compliqué. Les turbos, ça s'encrasse. Les moteurs ont besoin de plus d'entretien. C'est vrai qu'il y a de la nouvelle technologie, autant pour les normes écologiques, mais aussi pour les performances des véhicules, qui font en sorte que ça demande des fois plus d'entretien ou ça demande un peu plus de doigté, là, c'est pour s'en occuper de ces voitures-là. Mais cette avancée technologique-là nous amène quand même des véhicules qui, justement, entre le ratio performance et durabilité, sont assez impressionnantes. Tu sais, je viens de remettre les clés du Nissan Versa, qui est la voiture la moins chère au Canada en 2025. La voiture sous-compacte, qui est d'ailleurs un des seuls modèles, à vrai dire, c'est le seul modèle qui reste dans cette catégorie-là. Et tu sais, à 23 000 $ pour la voiture la moins chère au pays, moi, je trouve que ça fait déjà beaucoup de sous. Je trouve que ça fait déjà beaucoup d'argent. Mais ça m'a prouvé une chose, par contre, c'est qu'on n'a plus les mêmes genres de voitures d'entrée de gamme. On n'est plus dans les bonnes vieilles poneys, là. On est dans quelque chose qui m'offre une consommation de... J'ai fait à peu près 5,7 litres au 100 km en moyenne en conduite mixte en ville.
Wow.
Sur la grande route entre Montréal et Québec. J'ai atteint du 4,8 litres au 100 km.
Avec le, fusée, avec le Nissan Versa?
Oui, avec le Nissan Versa S, là, qui est vraiment le modèle de base. C'est pas une fusée, c'est un drôle de véhicule. À 23 000 $, je trouve qu'il y a des options qui peuvent être aussi intéressantes. C'est comme, par exemple, un Nissan Sentra, si on reste chez Nissan, qui va offrir un moteur 2 litres qui est plus performant et qui va consommer, oui, un petit peu plus de carburant, mais pas tant que ça quand même. Mais tu sais, on a des voitures comme des Hyundai Elantra qui vont faire du 6 litres au 100. Mais tu sais, j'ai fait 4,8 litres avec ma Versa. Puis je me dis, écoute, rendu là, c'est un peu comme si le char avait roulé avec le vent, là, tu sais. C'est impressionnant, là. Ça m'a littéralement coûté 20 $ une fois que je suis rendu à Québec. C'est 13 litres de carburant que j'ai mis dans le tank. C'est ça que ça m'a coûté pour faire la route entre Montréal et Québec. Bien, ça, tu n'avais pas ça à l'époque. Il n'y avait pas des voitures qui faisaient ce genre de performance-là en termes d'économie et de puissance que tu n'avais pas. Et ça, des fois, une espèce de relation avec les gens de l'automobile, c'est ça. C'est qu'on les aime, ces vieux chars-là. Mais crime de bine, quand je parle aux vrais amateurs, puis je parlais dernièrement avec un monsieur qui est spécialisé dans tout ce qui est de la restauration de véhicules. Tu sais, lui, il travaille juste dans les vieux véhicules pour les remettre en ordre, des chars qui coûtent des centaines de milliers de dollars une fois que c'est terminé. Puis il dit, tu sais, j'aime ça faire ça, mais là, j'ai envie d'acheter une Corvette de l'année, puis j'étais curé de rester en rack sur le bord des lumières, j'étais curé d'avoir des problèmes avec mes chars. Puis il dit, là, je vais m'acheter une Corvette puis passer à d'autres choses. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi dans la relation, mais c'est toujours le fun de se rappeler des souvenirs ensemble puis de triper sur nos bons vieux chars qu'on a aimés.
Okay. Mais pas LED, la Nissan Versa, là. Je suis en train de le regarder présentement. Là. Elle est vraiment pas LED. C'est un beau modèle. Fait que tu me dis, autour de 20 000 $, tu as ce véhicule-là. Je serais pas déçu si j'avais ça comme budget pour m'acheter un véhicule. Là.
Non, vraiment pas. Puis c'est ça mon point que tu sais.
Sam, est-ce qu'on t'a perdu? Sam, une fois! Sam, deux fois. Sam, trois fois. On a perdu Sam, les amis. Donc, on va faire une très courte pause et on vous revient.
Marceau, le soir. Le Rockin' Chill avec Audrey Pinchot. C'est le même feeling que d'assister au MTV Unplugged de ton band préféré, mais dans ton salon ou ton lit ou à pratique de tes kids. À vos joues, des covers, des versions acoustiques. Un paquet d'affaires qui s'écoutent bien tranquille les matins de fin de semaine. Le Rock'n' Chill, samedi et dimanche, 7h.
Bon, OK, j'ai nettoyé les fenêtres, j'ai sorti mon ensemble de patio, j'ai rangé les bottes d'hiver. Il me reste juste à appeler Décapeur AC pour restaurer mon ensemble de cuisine défraîchie. Décapeur.com.
Jardin de fleurs ou jardin de légumes? Telle est la question. Fanny donne pas être bien conseillée pour un bouquet de choix. Une Floralie de couleurs. Faites-vous une fleur et passez chez Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique. À Québec et Lévis, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Ta Kia K4 est magnifique.
Je le sais. Regarde son look. Surtout, c'est fort.
Hey, j'avais pas vu l'intérieur. On dirait qu'il y a beaucoup de technologie.
Ouais. J'ai même l'assistance au maintien de voie.
Est-ce qu'elle est fun à conduire?
Vraiment. Puis avec la garantie 5 ans ou 100 000 km, je roule en confiance.
T'as vraiment l'air sous le charme.
Du style, une technologie innovante et des tarifs avantageux. C'est sûr que je peux compter sur ma Kia K4.
Passez chez votre concessionnaire pendant l'événement Comptez sur Kia et profitez d'un boni du printemps de 500 $.
Visitez kia.ca.
Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Envie d'action et de découverte? À seulement une heure des ponts, les Etchemins vous attendent pour une escapade parfaite en famille. Plage, glissade d'eau, vélo de montagne, randonnée, arrêt gourmand, festivals et événements, tout y est pour bouger et s'émerveiller. Nature, plaisir et surprise au rendez-vous. Les Etchemins, proches, gourmands et surprenants. Planifiez votre aventure sur tourismeetchemin.qc.ca. Tourisme Etchemin, c'est la nature à portée de route.
Patio ou piscine en vue? Décorampe, spécialiste en garde-corps vert et aluminium, vous offre rapidement une fabrication québécoise sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15 %. Rendez-vous sur deco-rampe.com ou visitez-nous à Québec, Lévis ou Saint-Apollinaire.
Mercado.fm vous présente son nouveau porte-parole. Qu'on paye pas parce que ça roule déjà très bien.
T'as bien raison! Voici les offres!
Obtenez un accès au bain d'une valeur de 47 à 23 au Spa des Neiges. Ou encore une visite animée pour deux personnes d'une valeur de 50 à 25 aux promenades fantômes.
Si ça, ça vous fait pas aller jeter un coup d'œil sur Mercado.fm, c'est parce que vous avez rien compris!
Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Chez Vélo de la Côte, on vous offre les populaires et abordables vélos électriques gaz-gaz disponibles en magasin. Financement de 0,99% sur 36 mois. Plusieurs vélos de montagne simples et double suspension pour toute la famille. Vélo de la Côte, le bike shop le plus convivial de la région.
Venez admirer de plus près le tout nouveau Tiguan 2025. Il est maintenant disponible en précommande chez Volkswagen Saint-Nicolas. Profitez d'une réduction de 1% sur votre taux de financement en précommandant dès aujourd'hui. Le Tiguan 2025, c'est l'alliance parfaite entre la puissance, le luxe et la technologie. On peut donc dire que le Tiguan redéfinit la norme. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic.
Enfin, le Kimono de Charlebourg, situé dans l'ancien local des Frères Toc, est maintenant ouvert 7 soirs et tous les midis du lundi au vendredi. De plus, vous pouvez maintenant profiter du comptoir pour emporter. Commandez en ligne pour la livraison ou passez le prendre. Visitez kimono.ca.
Chez Miville Climatisation, on est concessionnaire autorisé Mitsubishi Electric numéro 1 au Québec. On est même lauréat du prix Diamant témoignant de notre excellence. Grâce à nos thermopompes performantes chez Miville Climatisation, ça fait 57 ans qu'on garantit votre confort. Visitez miville.ca. Le samedi 24 mai, le frère Thierry Joseph sera présent à l'église Sainte-Thérèse pour vous en tant que personne ressource. Au menu, entretien à 10h sous le thème « Thérèse et son besoin d'être aimé » et en après-midi à 15h sous le thème « Des paraboles de Thérèse ». Joignez-vous à la communauté pour vivre cette expérience de foi enrichissante. Remettre ses tracas à plus grand que soi vous apportera paix et sérénité. Assistez aux célébrations de 11h15 et de 16h avec animation musicale.
Hey, je suis pressé, là. On peut te faire ça court?
Hey, regarde-moi bien aller. Attends un petit peu, cours avant ou arrière?
Jusqu'au 21 mai chez BMR, le sel pour piscine est à seulement 6,97. Oh que oui! BMR. Pour les vrais, des conditions s'appliquent.
En montant dans une Prius hybride branchable toute neuve, vous pourriez tout d'un coup accepter de conduire des amis à un festival de musique au beau milieu de nulle part. Même si la musique est d'un style dont vous ignoriez totalement l'existence avant ce matin, tout ce qui reste à faire, c'est de la ramener à la maison. Pour découvrir de nouveaux modèles épatants comme la Prius hybride branchable, visitez achetermatoyota.ca ou passez chez votre concessionnaire du Québec et repartez en Toyota.
Boulevard. Boulevard 102. La radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais sans t'espionner.
Papa, je suis obligé de mettre mon habit de main.
Fait que moins 25, moins 27, le ressenti. Assurez-vous d'être bien habillé demain matin, parce qu'il va faire plus frais.
Ah, tu me niaises-tu, là? Pourquoi c'est encore bouché ici?
Oui, il y a un accident, donc un incident sur... voyons...
La route?
Sur la route, oui, là, sur Wilfrid Hamel. En fait, c'est pas vrai, c'est sur la capitale.
Boulevard 102, quand t'en as besoin, sans le savoir.
102-1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102-1. Bon, Sam, ça a coupé un peu. On avait juste 5 minutes de fête. Je t'annonce qu'on a 60 minutes à faire. Donc, on espère que ça ne clippe pas. On était rendu au moment où je te disais qu'un véhicule pour 20 000 $ avec une Nissan Versa 2025, je trouve que c'est, le modèle, je le trouve pas laid, là, mais pas laid du tout. Là.
Ça convient. Absolument. C'est une voiture aussi qui, honnêtement...
répond bien à la tâche d'être une voiture économique. Quand on parle de consommation de carburant, d'entretien, c'est un petit moteur 4 cylindres 1.6 litres qu'on connaît depuis longtemps, une transmission CVT, ça fait mal parce que là, au niveau de la fiabilité, ça fait peur. Et pour les bonnes raisons, c'est que Nissan a quand même eu beaucoup de difficultés avec ce type de transmission-là en termes de fiabilité. Donc, je peux comprendre des fois que ça fait peur un peu. Mais en même temps, quand on regarde le bilan d'entretien, c'est pas un véhicule qui en demande beaucoup. Donc, ça reste un véhicule abordable. Là, moi, des fois, j'ai un peu de la difficulté, c'est qu'on reste quand même autour de 23 000. T'sais, moi, j'avais le modèle avec une sublime couleur en option pour 250 $, un beau gris métallisé. c'est ça qui amenait la facture proche du 23. J'étais à 22 895 $ pour être exact. Donc, à ces prix-là, il manque 2 000 $ à peu près et on tombe dans la catégorie des voitures compactes. Donc, on va parler, par exemple, de la Nissan Sentra, qui est encore une autre voiture disponible chez Nissan, mais on peut penser, tantôt je le disais, mais la Hyundai Elantra, on a même des Corolla qui vont être dans ces eaux-là. Tu sais, on est dans des voitures qui ont déjà prouvé longtemps leur fiabilité et qui, en termes de performance, vont en offrir davantage. Tu sais, la Nissan Versa est un produit qui répond bien à la tâche d'être une voiture économique, mais dans la version S, elle que j'ai mis à l'essai, qui est vraiment la moins chère au Canada, ça paraît que c'est une stratégie de communication de Nissan beaucoup plus qu'un véhicule qu'on veut vendre, dans le sens que si vous rentrez chez votre concessionnaire, vous allez probablement trouver plus des Nissan Versa SV, qui est le milieu de gamme, ou la SR, qui est la toute équipée, qui tourne autour de 26 000 une fois qu'on l'a équipée au bouchon, parce qu'on ne veut pas vraiment vendre la Nissan S. La Nissan Versa S, l'équipement est un peu désuet, tu sais, il n'y a même pas de télécommande pour débarrer les portes. Tu sais, je veux bien comprendre de vouloir avoir la voiture la moins chère au Canada, mais on a mis des sensors à l'arrière pour le stationnement qui nous empêchent de rentrer dans des morceaux comme des sensors d'avertissement lorsqu'on se parque. Mais on n'a pas de télécommande pour déverrouiller les portes. Il y a un Hyundai Accent 2012 à 9 000 $, il y en avait des télécommandes dans ce temps-là.
On revient à la belle époque.
Ben là, c'est belle époque, mais là, c'est très, très belle époque. Ouais. Avoir une clé physique puis virer un barillet, il n'y a pas de problème, mais débarrer des portes, là, je pense que c'est un minimum en 2025, ouais. Mettons.
Cette discussion-là est partie des voitures qu'on ne pouvait pas nécessairement garder à l'époque quand il était autour de 200 000, 300 000 ouais. kilos. Mais je me souviens, à Québec, je me suis souvent fait dire ça par des chroniqueurs automobiles. Si tu veux savoir c'est quoi les voitures qui sont bonnes puis qui t'offrent longtemps, regarde les voitures de chauffeurs de taxi. Puis en jasant avec un chauffeur de taxi, j'étais dans un Toyota Camry. Il y avait 800 000 kilos sur le Toyota Camry, puis je pensais que son véhicule était neuf. Je veux dire, lui, il était sapé comme un prince. Son véhicule était hyper propre à l'intérieur, puis à l'extérieur, la peinture était belle. J'ai dit, quoi? 800 000 kilos? C'est incroyable, là. On n'aurait pas pu penser ça dans le temps qu'un véhicule pouvait faire 800 000 kilos.
Puis, tu sais, des histoires de même, il y en a à gauche puis à droite. Puis, je suis certain qu'il y a des gens qui vont nous écrire là, pour nous compter. Moi, j'ai un ami qui s'est rendu à 500 000 kilos avec son Corolla. Il y a une histoire, il y a un Hyundai Canada, un véhicule, un Hyundai Elantra avec moteur d'origine, transmission d'origine à 1 million de kilomètres. On en voit des voitures aujourd'hui qui font ça. Puis, c'est un peu toujours là l'espèce d'équilibre que je parlais tantôt. Mais quand on entretient bien ces produits-là aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont durables. Nous, on a le problème de vivre dans l'hiver, puis ça fait mal à nos chars. Fait qu'effectivement, le gros enjeu qu'on va avoir, c'est que la carrosserie ne va pas tenir, mais en termes de mécanique, c'est des voitures aujourd'hui qui sont plus durables et qui sont capables d'en faire beaucoup. Puis tu disais, un bon vieux Camry taxi, c'est les voitures par excellence. Là, les Camry au Canada, au Québec, du moins, les Toyota Camry de taxi sont un peu la bonne vieille voiture jaune de New York pour nous. T'sais, c'est notre taxi ici au Québec. Les Camry sont intuables, on en voit partout. C'est vrai que c'est des briques, là. C'est des voitures qui sont très, très, très durables.
Puis pourquoi on n'a pas fait des moteurs sur le style du Toyota Camry pour avoir d'autres voitures qui sont capables de perdurer dans le temps?
Il y en a, hein, tu sais. Puis Toyota duplique beaucoup cette technologie-là hybride. Ouais. On va la retrouver dans la Prius, on va en retrouver des formes dans le RAV4, on va en trouver dans la Sienna, on va en retrouver un peu partout dans l'alignement. La Corolla également, qui s'offre en modèle hybride aussi. Toyota est un constructeur très conservateur qui, lorsqu'il déploie une technologie, vont la garder très longtemps. défaut qualité de ça, c'est qualité, clairement, la durabilité, on va l'améliorer. Le défaut, c'est quand on commence une nouvelle technologie, bien, c'est long avant d'avoir une stabilité fiable. Fait que quand Toyota lance des nouvelles mécaniques, comme on vient de le faire, on a sorti des nouveaux modèles hybrides pour les Tacoma, les Tundra, les 4Runner, on a sorti vraiment une nouvelle gamme de motorisation hybride qu'on remplace les bons vieux V6 qu'on avait avant ça dans les plus gros camions. Puis dans le début des lancements, les Toyota Tundra, on a connu des ratés avec les Tacoma également. Puis c'est pas pourtant deux véhicules qui avaient une réputation d'avoir des problèmes, c'est juste que quand on lance une nouvelle technologie, bien, c'est ça que ça amène. La beauté avec Toyota, c'est que si on se fie à leur stratégie des dernières décennies, bien, on va les voir très longtemps, ces moteurs-là, et déjà là, on devrait déjà recommencer à retrouver une forme de fiabilité avec ces groupes-là qui vont continuer à se développer tout au long. Le défaut de ça, c'est que la Dash parle juste de qualité, mais le défaut, c'est qu'il y a la fiabilité du départ qui est toujours un peu comme tout le monde lorsqu'on sort une nouvelle technologie, bon, toujours un peu risqué, mais l'autre défaut, selon moi, c'est que ça arrive que les technologies arrivent désuètes, tant en termes de puissance, un moment donné, ou en termes de consommation de carburant. Tu te dis, OK, gars, vois-tu, eux autres, ils ont sorti une nouvelle transmission chez le concurrent, puis oui, elle est plus risquée en termes de fiabilité, mais Colin, je vais dire ça de même, on consomme 2 à 3 litres de moins au 100 km. Fait que ça paraît beaucoup. Sur l'économie carburant qu'on va faire au bout de l'année.
Ça paraît sur le long terme. Puis est-ce que c'est... Bon, je suis un petit peu plus vieux que toi, là, mais toi, tu t'y connais, tu as les deux mains dans la recette tout le temps. Les manuels d'entretien ont-tu changé avec le temps? Parce que je me souviens que quand j'étais jeune, on avait un véhicule. C'était pas mal nous autres qui étaient le gars d'entretien de notre véhicule, ce qui faisait en sorte qu'on faisait des erreurs qu'un mécanicien n'aurait pas fait. Aujourd'hui, les livres d'entretien, c'est beaucoup le concessionnaire qui s'occupe de ça. Puis il prend ton rendez-vous, puis vient nous revoir à telle date, puis on va s'occuper de ton char. C'est-tu une raison pour laquelle les véhicules durent plus longtemps maintenant? C'est que c'est plus des mains du gars qui était capable de faire son changement d'huile tout seul?
Moi, personnellement, je vois un problème avec ça. Il y a le mouvement qui s'appelle le « Own to Repair » présentement, là, qui est comme un genre de mouvement qu'on voit passer en Amérique du Nord, où il y a plusieurs personnes qui, justement, aimaient faire leur mécanique eux-mêmes, aimaient s'occuper eux-mêmes de leur voiture parce que je vais t'avouer qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quand on est propriétaire et qu'on est consciencieux et qu'on aime s'occuper de notre véhicule, bien, on prend l'attention particulière pour faire nos changements d'huile, puis on s'occupe de faire des choses qui sont des fois un peu plus nichées que quand on fait des véhicules de masse dans des garages puis qu'on en sort des voitures, peut-être qu'on prend un petit peu moins le temps de le faire. Puis je pense que le mouvement qui est actuellement enclenché, puis d'ailleurs, même au Canada, tu sais, il y a des lois anti-citron qui se passent actuellement et on a des organismes qui sont là pour défendre les droits des automobilistes d'avoir des véhicules qui sont réparables par eux-mêmes. Parce que là, pour le moment, ce qu'on est en train de voir, puis ça, c'est vraiment une étude de concurrence qui est faite par la loi de la protection du consommateur, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des constructeurs, comme tu disais si bien, Yannick, qui amènent les gens à être obligé de passer par le concessionnaire pour être réparé. Et là, on n'a même plus les formations dans les garages du coin de la rue. Là. Il n'y a plus de garages autour qui peuvent réparer les véhicules. Il faut aller automatiquement au concessionnaire, ce qui ne nous permet plus, nous, en tant que conducteurs, en tant qu'automobilistes, de choisir la personne qui va s'occuper de notre véhicule ou qui va nous offrir une option moins alternative, une option moins dispendieuse ou quoi que ce soit. Puis là, bien, présentement, ça, c'est un enjeu que moi, j'aime parler parce que je trouve ça si important d'essayer de se battre et de continuer à faire attention à ça. Parce que oui, même si nous, on était peut-être moins habiles des fois dans des manipulations, je ne pense pas que c'est à cause qu'on amène notre voiture au garage qu'elle est plus fiable. C'est l'ingénierie qui est derrière qui s'est vraiment améliorée simplement. Et quand on regarde, puis c'est drôle, parce que dernièrement, je suis allé visiter une bonne vieille Mercedes SL 550 1979, un bon vieux bateau Mercedes, incroyable, elle était dorée, intérieur brun, un bon vieux classique. Puis quand j'ai ouvert le capot à l'arrière, puis j'ai regardé le pneu de secours, on avait tous les outils nécessaires pour faire des réparations sur le bord du chemin si on avait besoin de le faire. Puis quand je regardais après ça, le pneu de secours d'une autre voiture qui était là, une autre belle vieille voiture, une autre belle Mercedes, bien, on avait aussi des petites fuses de disponibles au cas où qu'il y avait une fuse qui lâchait dans le panneau de fuse, qu'on puisse nous-mêmes la changer. T'sais. Ça venait d'origine avec le véhicule. On donnait ces pièces-là au propriétaire pour que si jamais il arrive un petit quelque chose, bien, vous allez avoir les outils puis vous allez être capable de faire vous-même des petites réparations. Aujourd'hui, on enlève les pneus de secours des voitures, on met des produits scellants à pneus, on met des pompes pour gonfler des pneus sur le bord du chemin. Ça finit que les gens, bien, ils ne savent plus trop quoi faire avec ça. On appelle le remorquage, on amène ça au concessionnaire, puis encore une fois, je trouve qu'on enlève des options, puis Je trouve ça déplorable, mais j'aime voir les mouvements qui se passent actuellement. C'est dans l'actualité, on en parle. Il y a des organismes également qui travaillent pour nous là-dedans. Puis je pense que même si on va dans l'électrification, même si on parle beaucoup de nouvelles technologies, il faut qu'on trouve une manière que tout le monde ait accès à choisir où et comment ils veulent réparer leur véhicule. Puis il faut absolument, parce que je me souviens de, justement, je parlais de Mercedes, là. Les Mercedes, il y a quelques années, ne laissaient même pas les propriétaires ouvrir le capot de leur Mercedes EQS. Il fallait aller au concessionnaire pour ouvrir le capot du véhicule.
Ben de là, la prochaine question que je voulais te poser, Samuel Tremblay-Michaud, est-ce que ce n'est pas à l'avantage des constructeurs de complexifier leur motorisation puis d'inventer de nouveaux outils pour faire ci et faire ça pour que uniquement le concessionnaire qui achète le produit du constructeur puisse être en mesure de faire les réparations puis les changements? Parce que tu me l'as déjà dit, hein, le concessionnaire, ça fait pas tant d'argent sur le véhicule. C'est souvent sur la suite des choses que le concessionnaire va faire son argent.
Absolument, puis ça vient beaucoup de ça. Tu sais, pour répondre à la question initiale qui était « Est-ce que les constructeurs, c'est avantageux pour eux de le faire? » La réponse, c'est un couteau à double tranchant. OK, si on complexifie beaucoup les mécaniques, bien moi, je vais être le premier à vous le dire sur le site d'RPMWeb.ca de ne pas acheter un véhicule parce que ça n'a pas de bon sens. Réparer ça, ça ne sera pas possible. Puis moi et mes autres collègues dans tous les autres médias automobiles, on va être les premiers aussi à le pointer du doigt et dire « Bien là, maintenant, ce véhicule-là, il n'y a pas de bon sens parce qu'il est tellement complexe à réparer que vous devez être capable de sortir beaucoup d'argent de vos poches pour être capable d'aller le faire réparer toujours au concessionnaire. » Ce qui, dans le fond, ne ferait pas beaucoup de sens. Donc moi, je pense que les constructeurs ont une réputation à défendre actuellement. Puis dans la transition qu'on fait énergétique, c'est plus important que jamais cette réputation-là. Puis j'ai l'impression que pour eux, c'est pas si payant que ça de virer de bord, pour commencer à vouloir rendre les gens automatisés dans un système d'entretien pour essayer de rentabiliser le plus possible. On est mieux d'user de transparence. La transparence est toujours mieux là-dedans. C'est vrai que présentement, dans les véhicules électriques, il y a de la formation à faire au Québec, surtout pour que nos garagistes du coin aient les bonnes formations pour se faire. Il y a des organismes comme CA Québec qui offrent des formations spécialisées pour les garagistes, pour les amener à comprendre comment utiliser, comment réparer des batteries au ion, comment on les enlève du plancher, comment on manipule ce genre de matières-là qui sont très dangereuses à utiliser puis à manipuler. Puis on est en train d'essayer de former notre monde actuellement pour s'offrir ces avantages-là. Mais tu sais, entre toi et moi, c'est clair et net qu'on cherche des manières actuellement de rentrer de l'argent quand même dans la compagnie, parce que si on prend les voitures électriques, bien, on n'a plus les bons vieux changements d'huile, on n'a plus les changements de frein même qui se font beaucoup moins souvent parce qu'on a souvent des systèmes de régénération qui sont beaucoup plus puissants. Donc, on utilise de moins en moins les systèmes de freinage dans les véhicules électriques, ce qui fait en sorte qu'on change moins souvent les pneus, on change moins souvent les freins, on change moins souvent l'huile. Donc, vous comprenez un peu que ça amène aussi moins d'argent au moulin à tout le monde, tant pour le concessionnaire, mais aussi pour le fabricant. Puis là, on cherche par des moyens X, Y, Z de ramener ces sous-là. On voit beaucoup d'abonnements aussi. Je vois des constructeurs comme GM qui a décidé d'aller dans l'intégration de Google dans leur système d'infodivertissement. À partir de maintenant, lorsqu'on utilise ce produit-là, on n'a plus besoin de connecter un téléphone intelligent pour avoir accès au service de Google dans l'écran du véhicule. On l'a directement inclus. C'est agréable, c'est le fun à utiliser lorsqu'on embarque dans le produit. C'est bien monté, c'est bien ficelé, mais l'enjeu, c'est que l'abonnement va durer un certain temps. Et ensuite, quand l'abonnement va être fini, bien, il va falloir que la personne qui est propriétaire du véhicule s'abonne et paye par mois maintenant pour avoir accès à ces fonctionnalités-là qui sont intégrées dans le véhicule. Fait que là, on voit que les constructeurs tentent de trouver des manières de garder de l'eau au moulin, mais effectivement, l'entretien passe par là. Puis c'est pour ça que, encore une fois, je me répète, mais je trouve ça le fun qu'on en parle. C'est important qu'en tant que consommateur, nous soyons conscients de ça. Parce que si on n'en parle jamais, puis que je veux juste vous dire, les chars vont bien, les écrans sont rendus gros, puis les bancs sont tellement chauffants, bien, je trouve qu'on perd des fois l'élément le plus important qui, bien, ça serait le fun que votre voiture ne vous coûte pas une fortune non plus à rouler chaque jour. Puis si c'est un véhicule qui est bien conçu comme aujourd'hui, il devrait en plus vous durer longtemps. Fait qu'essayons donc de les garder longtemps à bon prix. Je pense que c'est ça l'idée, là.
Est-ce que, j'achète un véhicule, peu importe la marque, et le concessionnaire me dit, pour l'entretien, patati, patata, là, c'est les assurances. Est-ce que l'assurance du constructeur tombe si je fais réparer mon véhicule à quelque part chez un autre mécanicien avant de revenir chez le concessionnaire?
Excellente question qui, des fois, fait peur, hein? On achète une voiture, je ne veux pas faire ma garantie. J'ai une garantie moteur, 3 ans, 60 000 km. Je ne veux pas me faire avoir. Si je fais mon changement d'huile dans une grande chaîne où je vais ailleurs, je vais-tu perdre cette garantie-là?
On me l'a clairement mentionné verbalement. Je ne sais pas si c'était écrit dans le contrat, parce que quand ils m'ont lu le contrat, ça ne me tentait pas. Je voulais juste partir avec ma moto, là. Mais chez Harley-Davidson, on me l'a clairement dit, là, verbalement. Si vous faites ouvrir votre moteur ailleurs qu'ici, votre garantie du constructeur n'est plus applicable. Fait que tu comprends que j'allais payer mon 120$, 130$ de l'heure, mon mécano de moto chez Harley-Davidson, tu sais. Mais toi, ce que tu me mentionnes, c'est que c'est pas vrai, ça?
Non, pas du tout. Puis à vrai dire, il n'y a absolument rien qui peut vous attacher à ce genre de clause-là. Si quand c'est du verbal, je comprends qu'on veut faire peur, rendu là, c'est peut-être déloyal un peu comme manière de faire. Parce que théoriquement, lorsque vous faites l'entretien de votre véhicule, exemple, on va chercher une voiture normale, on va faire un changement d'huile. L'important, c'est que vous respectiez ce qui est écrit dans le guide d'entretien du véhicule. Et le guide d'entretien, ce n'est pas votre concessionnaire qui vous le donne. C'est l'entreprise qui a mis au monde votre voiture. C'est le fabricant automobile. Donc, le fabricant, lui, là, qu'est-ce qu'il vous demande? C'est que votre voiture a besoin de l'huile du 5W20. C'est ça que vous devez prendre dans votre voiture. Bien, c'est sûr et certain que si vous allez au garage du coin puis qu'il vous met de la 5W40 puis que votre moteur explose 3 ans après, mais ça se peut bien que quand on va regarder vos factures, ils vont vous dire, ben non, c'est pas le bon niveau d'huile que vous avez mis dedans. Ça, c'est votre erreur, c'est votre faute. Le véhicule n'est pas garanti. Mais quand on fait un changement d'huile avec un garage moindrement spécialisé, un garage de votre quartier ou peu importe, on le sait quel grade mettre d'huile dans les véhicules. C'est accessible comme information. C'est dans le carnet d'entretien du véhicule de toute manière. Puis l'important, c'est de garder la documentation derrière. Quand on peut aller faire notre changement d'huile où on veut, puis l'important, c'est qu'on garde toujours la preuve que non, j'ai mis un filtre qui était adéquat et j'ai mis aussi le grade d'huile nécessaire au bon fonctionnement de mon véhicule. Voici la preuve, la facture qui montre ce que moi j'ai fait comme propriétaire. Et en aucun cas, votre garantie devrait tomber. En aucun cas. Puis si ça arrive, là, on tombe vraiment dans de la loi protection des consommateurs. C'est légalement pas possible au Québec de faire ça. Donc, vous avez toujours la possibilité d'aller faire réparer votre véhicule où vous le voulez. Moi, ce que j'aime dire à mon monde autour de moi, souvent, par contre, c'est quand on a des problèmes mécaniques, des problèmes qui sont très spécifiques. Des fois, ça peut valoir la peine, même si ça coûte plus cher de l'heure, d'aller dans un concessionnaire automobile parce que ces gens-là sont habitués à travailler sur votre modèle de véhicule. Ça arrive, c'est vrai, ça. Puis moi, je suis un des premiers à dire, oui, c'est vrai que le taux horaire est plus cher, puis c'est pas toujours les plus avantageux. Puis des fois, on essaie de vous vendre des babelles qui sont pas nécessairement pratiques pour vous. En même temps, ça s'appelle du marketing, c'est à vous d'avoir un solide thinking puis de bien réfléchir. Mais de l'autre côté, quand on va dans un concessionnaire, on a des techniciens qui sont professionnels de la marque de votre véhicule et qui ont aussi les outils et aussi les connaissances derrière ces problèmes-là. Donc, si vous avez un trouble électrique, un problème mécanique qui est très spécifique à votre véhicule, d'aller dans un garage du coin, des fois que la personne là-bas, elle voit toutes les marques passer, voit tous les modèles passer, ça peut devenir plus difficile de trouver la source des problèmes, puis donc plus coûteux quasiment à la ligne parce qu'il va passer plus de temps à la personne pour essayer de trouver le problème. Donc, dans ce cas-là, ça peut valoir la peine d'aller dans des services spécialisés comme les concessionnaires ou les garages qui, eux, se spécialisent uniquement dans certaines marques de véhicules parce que ces techniciens-là, ces garagistes-là, ils en ont vu d'autres et ils sont très efficaces dans leur réparation. Donc, toujours encore une fois une question d'équilibre, mais vous avez le droit de faire vos changements d'huile que vous voulez. Ça, c'est clair.
J'aime ça. Puis tu sais, je t'ai déjà raconté l'histoire du concessionnaire auto qui m'avait évalué les réparations de mon véhicule à, je sais pas moi, tiens, 800$. Puis là-dedans, ben ça impliquait 3-4 heures pour changer le morceau, plus le morceau patati patata. Puis moi, dans la salle d'attente, il y a le technicien qui a travaillé sur mon véhicule qui vient me voir, qui me dit « Hey Yann, on pensait que ça allait durer 3 heures, la réparation de ton véhicule. Finalement, en 45 minutes, on était capable de faire ça rapide. » Fait que ça a mieux été qu'on pensait. Lors de la facturation, je regarde l'heure qui a été facturée. On me charge encore 3 heures. Fait que là, moi, je dis au gars qui était en face de moi, qui était le gars des pièces, ou le gars qui est spécialisé pour m'accueillir, là.
Puis
là,
l'agent de service.
Est-ce que ça a pris vraiment 3 heures réparer mon véhicule? Il dit oui. Je dis OK, bien, c'est parce que moi, j'ai avis contraire du technicien qui me dit en arrière que ça a pris 45 minutes. Il dit ouais, mais il dit c'est comme ça ici, monsieur, on a des chartes. Il dit pardon. Il dit on a des chartes. Ouais, j'ai dit pardon. Ouais. J'ai dit ça a pris 45 minutes, tu vas me charger pour 45 minutes. Puis c'est rare que je m'obstine avec la face que j'ai. Tu sais, il voit où je travaille, fait que je ferme toujours ma gueule. Mais là, je me suis dit, t'es peu, là je suis en train de me faire voler par des individus qui m'ont dit que mon véhicule, ça a pris 3 heures à réparer alors que ça a pris 45 minutes. Fait que là, c'est le gérant ou le directeur de l'établissement qui est venu me voir. J'y ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Puis finalement, ben, je l'ai payé mon 45 minutes d'ouvrage plutôt que mon 3 heures. Mais ouais. Si moi, je me suis rendu compte de ça, tu sais, il y en a combien qui se sont fait avoir?
C'est des puis tu sais, j'entends ça, puis j'ai le poil qui m'hérisse sur les bras présentement. Je suis... C'est fâchant d'entendre ça.
Le monsieur me regardait, Samuel, le monsieur me regardait comme si c'était tout à fait normal de charger 3 heures alors que ça a pris 45 minutes. Ouais, mais c'est une charte, là. Des fois, ça prend plus de temps. Ouais, mais quand ça prend plus de temps, vous devez être le premier à appeler le client pour dire que ça va prendre 1h30, 2 heures de plus. Puis vous le chargez, votre 125$ de l'heure supplémentaire.
À 25, on est à 160, 180.
Mais maintenant, mais moi, ouais, je te parle à l'époque, quand j'étais en Beauce, hey, j'étais en sacrifice. Quand je me suis rendu compte que le gars chez qui j'allais depuis des années pour mon service me volait, je me suis dit, toi, plus jamais je vais aller te voir.
Mais c'est fâchant, puis écoute, j'ai vécu moi-même quelque chose comme ça la semaine dernière avec mon véhicule personnel. Littéralement, là, tu sais, j'ai une voiture, ma voiture, elle est connue pour un défaut de fabrication. C'est la faute du constructeur automobile. Là. Mon auto, elle est connue pour ce problème-là. C'est la deuxième fois que je revis un problème avec mon véhicule qui est une erreur de conception, de fabrication du constructeur. C'est le véhicule qui a un défaut. Puis c'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est une situation qu'il faut qu'on règle rapidement. Incapable d'avoir du service, incapable d'avoir une place de rendez-vous rapidement, réussi finalement à me déplacer là-bas. Puis, tu sais, j'avais un peu envie de dire, tu sais, je travaille dans l'industrie de l'automobile, ça vous tente-tu de m'aider un peu dans mon projet? Je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas comme ça non plus. Hein, tu sais, moi, je suis un peu un gars qui j'aime pas ça jouer cette carte-là. Fait on ferme notre boîte, puis j'avance dans le projet. Puis finalement, j'arrive là-bas et ce qu'on me dit, c'est que ça va me coûter 600$ juste pour regarder c'est quoi le problème. On n'a même pas encore réglé quoi que ce soit. Puis là, moi, je le sais c'est quoi le problème. Et moi et les 15 000 autres personnes qui ont acheté ce produit-là ont tous le même problème. Et le concessionnaire sait très bien c'est quoi le problème parce que c'est toujours le même problème. Donc là, il n'y a pas 6 heures à mettre là-dessus. Puis moi, je ne verrais pas 600$ pour quelque chose que vous avez fait une erreur en tant que fabricant automobile puis qu'en plus, le concessionnaire connaît très bien comme problème. Puis là, ça a été l'ostinage que finalement, je suis parti avec mon véhicule. J'ai dit, nous, vous allez me donner mes clés. Je vais partir d'ici le plus rapidement possible parce que j'ai une réputation que j'y tiens un peu quand même. Parce que justement, tu sais, ça devient fâchant, puis ça devient insultant. Puis comme moi, je te rejoins beaucoup, Yannick, sur si moi, je m'en suis rendu compte, moi, je me suis battu un peu. Il y a beaucoup de gens qui doivent juste jamais rien dire, laisser les clés et partir. Puis moi, je trouve que cette manière de faire-là, malheureusement, c'est très plate parce que ça gâche toute la réputation de, au contraire, des très bons endroits qui font extrêmement bien les choses et qui sont réellement là pour offrir du service à leurs clients. Ça crée cette espèce d'environnement dans lequel nous, on navigue les consommateurs, qui est vraiment pas agréable, qui nous donne plus envie de faire confiance. Puis tu sais, à un moment donné, on paye nos voitures à un prix qui est assez élevé. Moi, j'ai continué à aller chez mon concessionnaire pour l'entretien de mon véhicule parce que je me suis dit, garde, je suis un peu zélé, je vais payer plus cher, mais garde, j'ai des pièces d'origine, puis je vais payer. Puis je vais me dire, quand je vais avoir besoin, je vais appeler, je vais avoir du service. Comprendrez que maintenant, je suis très déçu et je ne retournerai plus jamais à mon concessionnaire. Dans le fond, j'ai juste l'impression d'avoir gaspillé des centaines de dollars pour rien dans l'entretien de mon véhicule, ce qui devient enrageant à la longue. Puis malheureusement, j'entends des histoires comme ça trop souvent. Puis je pense que c'est important qu'on en parle parce que l'entretien, c'est important d'un véhicule. Je suis le premier à dire qu'il faut qu'on fasse l'entretien, mais j'ai l'impression que là, présentement, on perd un peu le fil sur c'est qui le client est roi. Là. On a perdu un peu cette notion-là. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, le client, c'est un numéro, mon booking il est plein, j'ai pas de place pour toi, ça va te coûter 1 200$.
Ben, c'est comme ça, si y en ont tellement qui se disent, si c'est pas toi qui vas payer le 600$ pour que je vérifie ton véhicule, ben c'est le gars d'après. Puis toi, ben, on n'entendra plus parler de toi, c'est pas si grave que ça. Alors que toi, ben, tu en parles à la radio après. Tu peux faire plus de... Puis sur RPM, fait que tu peux faire plus de dommages que quiconque. Puis il faut en parler, puis en gang, on se transmet de l'information. Mais quand je me suis obstiné, moi, là, je me suis obstiné parce qu'il me volait. Là. Là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de me voler et vous considérez ça normal. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation, à quel point c'est fâchant? Si c'était votre enfant qui se faisait voler comme ça, est-ce que vous accepteriez ça, tu sais? Puis là, oh non, on n'accepterait pas ça. Bien, vous êtes en train de le faire. Fait que moi, vous me chargez mon 45 minutes, m'a donné du pourboire au mécanicien comme je fais à chaque fois qui touche à mon véhicule. Mais c'est pas vrai que vous allez me charger le 3 heures. Puis là, écoute, il m'a même dit, ouais, mais là, écoute, si tu viens chercher ton véhicule, nous autres, on te le donne pas, c'est quoi? Tu vas-tu appeler la police? Non, j'appellerai pas la police, là. Je pars avec mon véhicule. Puis je vais te payer ton 45 minutes. Bien, finalement, ils ont accepté, mais il a fallu que je m'obstine. Je trouve ça plate qu'on soit obligé de parler de ça parce qu'il y a tellement plus de concessionnaires automobiles qui sont honnêtes que malhonnêtes. Que ces 3-4% de malhonnêtes font mal paraître 97 ou 96% des concessionnaires qui sont honnêtes, là.
Puis ce qui est dommage aussi, c'est que toi puis moi, moi je navigue dans l'automobile, je suis capable d'en parler, c'est ma passion, j'aime les autos. Il y a des gens qui écoutent qui sont sûrement des amateurs aussi, mais il y a beaucoup de gens pour qui une voiture, c'est simplement un moyen de transport qu'on a besoin. Donc, les connaissances autour sont très faibles, sont très limitées. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui se ramassent dans des situations où sont malheureusement pas assez informés pour qu'est-ce qu'ils vont vivre comme facture à la fin. Puis je trouve ça dommage, mais comme tu l'as si bien dit, par contre, Il y a vraiment des gens qui ont le souci de s'occuper comme il faut du monde, mais ça paraît aussi sur les commentaires qu'on va aller voir sur Internet, qu'on va voir sur les avis Google ou qu'on va se promener sur les réseaux sociaux. Moi, j'invite toujours les gens à regarder. Ça vaut la peine parce que les bons établissements, les endroits qui font bien les choses, bien, généralement, ils ont une réputation qui vient avec aussi. Puis si vous avez envie d'avoir confiance des fois en un établissement, que ce soit un garage privé, un concessionnaire ou quoi que ce soit, ça vaut toujours la peine d'aller voir les avis des autres consommateurs qui sont passés par là. Je pense que c'est une manière entre nous de se protéger, de se dire aussi, bien, cet endroit-là, quand je suis allé, la personne était tellement honnête. Puis j'en entends des histoires, là. Tu sais, j'ai déjà entendu une histoire dernièrement, quelqu'un qui s'était fait commander une pièce. La pièce est arrivée, une pièce qui coûtait très cher. Finalement, le garagiste, il a dit, bien, écoute, finalement, je me rends compte que cette pièce-là, moi, je peux trouver une solution pour réparer l'autre. Je retourne la pièce, ça va te coûter 200$. Au début, c'est un bill de 2500 qui s'attendait, lui-là.
Hey,
puis, tu sais, la personne a trouvé une solution, mais tu me crées-tu que la personne que je connais, mon ami, il est allé faire un avis sur Internet pour dire à quel point il est satisfait de ce qui s'est passé actuellement. Puis, si des garages comme ça, bien, ça va me faire plaisir d'envoyer des gens que je connais personnellement y aller dans ces garages-là. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Puis, ça revient un peu à ce qu'on disait avec les compagnies automobiles, tu sais. Oui, rendre des mécaniques compliquées, ça peut amener de l'eau au moulin, mais si la réputation se fait entacher après ça, mais c'est difficile de revenir. C'est le même principe pour les garages. Fait que, heureusement, le monde fait bien les choses. J'ai l'impression qu'entre nous, on peut se donner des bons avis, puis fiez-vous aux avis des autres consommateurs qui sont allés dans les établissements avant vous. Ça vaut toujours la peine.
Exact. Puis tu sais, je nommerai pas l'endroit, mais je vais nommer le constructeur, tu sais, Chevrolet Buick GMC. Okay? Lui, il vend ça, c'est un concessionnaire.
Ouais.
Puis je parle de la problématique que j'avais eue dans le temps, puis lui, il rit en disant, tu sais, les gars sont tellement habitués, là, ils sont dans la chaîne à saucisses, là. Ils font les mêmes affaires à tous les jours, puis à un moment donné, bien, ils se rendent même plus compte que ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça prend des fois des clients qui disent « Attendez un peu, là, vous m'avez dit que ça prenait 3 heures, ça a pris 1 heure, chargez-moi 1 heure au lieu de 3 heures. » T'sais, lui, ce qu'il disait, c'est qu'ils sont tellement tout le temps les deux mains dans Poutine qu'ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils font. T'sais, c'est le même, ça a toujours été le même, ça ne changera pas, puis on le fait. Mais concrètement, moi, en tant qu'individu, Je me sentais volé. Puis il aurait dû le détecter au début. Je me sentais volé.
Ah oui, t'étais pas bien, là. C'est ma belle expérience. Puis, tu sais, pour finir sur ce volet-là, mais j'ai vécu de quoi, justement, sur ce que tu viens de dire, tu sais, l'espèce de chaîne à saucisses. Moi, j'ai eu des réparations de carrosserie à faire sur mon véhicule, sur garantie. Puis on a vu mon véhicule se faire réparer. Et mon auto, tu sais, encore une fois, c'est une problématique de rouille qui est connue, qui est toujours la même. Puis quand j'étais au carrossier, bien, on a pris le véhicule. Le technicien, la personne qui faisait la carrosserie, le carrossier a regardé son billet de travail de la journée. Il a vu mon modèle de char. Il a vu que c'était dans le même coin que d'habitude. Il a refait les ailes au complet. Mais moi, c'était pas ça, là. C'est pas ça que j'avais eu comme garantie. J'avais juste un autre petit volet qui était à côté, mais j'étais tellement habitué de faire ces modèles-là pour ces problématiques-là que dès qu'il a vu le modèle de mon char puis que c'était en arrière, ben, il a refait les deux ailes. Et moi, j'arrive chercher mon auto, je suis comme, là, les ailes ont été faites, là. Mais moi, tu sais, j'ai beau. Je suis content, là. Elles sont super belles, puis je suis bien heureux, là. Tu sais, mais c'est pas ça que j'avais demandé. Mais ça prouve justement, des fois, justement, comme tu dis, la machine à saucisse. C'est pas toujours volontaire, puis c'est pas non plus toujours rempli de mauvaise foi.
Exact.
Mais c'est important de faire attention quand on est un consommateur, de toujours regarder nos options avant de prendre une décision. Puis je suis content de voir que le moins la loi pour la protection du consommateur est en train de travailler fort là-dessus aussi pour qu'on puisse garder le droit de réparation de nos véhicules, puis qu'on puisse aussi s'assurer de choisir où on veut les faire, nos réparations. Ça, je trouve, c'est primordial.
Parle-moi du RAV4 maintenant. Qu'est-ce qui fait que le RAV4, c'est un des véhicules préférés des Québécois?
Ça se vend, hein, du RAV4. C'est hallucinant. On parle beaucoup du F-150. À chaque année, je te parle des véhicules les plus vendus. Je te dis, ouais, le F-150, cette année, c'est encore le véhicule le plus vendu au Canada. Mais pour vous donner une idée de grandeur, tu sais, des F-150, ça en vend beaucoup. Puis c'est des véhicules aussi qui vont être achetés par des compagnies, par des flottes. Puis, tu sais, la série F-150 se décline en beaucoup de modèles pour arriver à des chiffres de vente qui sont effectivement impressionnants. Par contre, on a des véhicules comme le Toyota RAV4 qui impressionnent tout autant en étant des véhicules passagers, des véhicules pour monsieur, madame, tout le monde. Puis au Québec, en 2024, on a vendu 16 343 RAV4 sur le territoire québécois. Ça paraît peut-être pas si gros que ça quand je le dis, mais admettons que je le compare au Honda CR-V. On a vendu 6 863 Honda CR-V. Fait qu'il y a 10 000 RAV4 de plus qui ont été vendus dans la même période de temps en 2024. C'est vraiment un produit qui est populaire. Tu sais, chez Subaru, on a vendu 3 700 Outback. Là. Ça vous donne une idée de grandeur. Là. C'est vraiment un VUS qu'on aime. Les raisons sont simples. Hein, tu sais, la fameuse réputation. Puis c'est le fun parce que ça fait vraiment un lien direct. Mais la réputation de Toyota avec la fiabilité, la durabilité de leur véhicule, bien, ça rapporte à quelque part. Le RAV4 aussi, on l'a décliné en plein de possibilités. On a des versions à essence abordables, pas trop équipées, mais bien équipées quand même, qui somme toute restent économiques. On a des versions hybrides. On a des versions hybrides rechargeables, le fameux RAV4 hybride branchable qui s'appelait auparavant le RAV4 Prime, qu'on a renommé. Et cette génération-là de RAV4 qui s'en va officiellement cette année a vraiment connu un énorme succès depuis son introduction au tournant des années 2020. Là, on s'enligne pour une toute nouvelle génération qui va être présentée et très, 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 très bientôt, soyez à l'affût des différentes plateformes de RPM. On va vous en parler, c'est sûr et certain, dans les prochains moments. Je ne peux pas vous parler d'heures exactes, mais si vous comprenez les lignes, soyez vraiment pas loin. Ça s'en vient. Puis on va découvrir la toute nouvelle génération du Toyota RAV4 qui arrive avec un mandat qui doit être épouvantable. C'est un peu comme si Nick Crosby, on veut qu'il score des buts, mais là, il faut que ce RAV4-là continue à scorer des buts. C'est vraiment un produit de masse. Toyota est un constructeur, comme je disais un petit peu plus tôt, qui est quand même assez conservateur. Donc, je ne m'attends pas à un revirement complet de l'identité du RAV4. Je pense pas qu'on va aller complètement champ gauche, mais j'ai l'impression qu'on va vouloir continuer sur notre bonne lancée. Il faut savoir aussi que notre RAV4 qui est construit ici au Canada, hein, qui actuellement dans notre achat automobile, on sait avec toute la guerre tarifaire, tout ce qui se passe, bien, c'est un véhicule qui risque de connaître encore en 2025 une année de vente solide. Et c'est vraiment si on parle de machine à saucisse, là, ça, ce n'est un. C'est un qui se produit, qui sort, qui se produit, qui sort. Il n'y a pas de misère à se vendre, c'est bien le Toyota RAV4. Nouvelle génération qui est très attendue et qui devra relever le défi du papa RAV4 actuel.
Ouais, c'est moi ce qui me fait halluciner parce que je suis sur le site d'un concessionnaire Toyota. Là, c'est vraiment l'intérêt. T'sais, on est à 7% d'intérêt. C'est beaucoup d'argent. Là.
C'est ahurissant. Puis, tu sais, dernièrement, j'ai un ami qui m'a tellement fait rire parce qu'il me disait ouais, moi, je magasine des autos là, sur Internet actuellement. Là, puis là, je viens de voir que je ne suis pas dans le cycle Toyota. Moi, je ne comprends pas pourquoi je paierais un 5-6 000 de plus pour ce char-là. Nanana. C'est quoi la taxe Toyota? Mais il y en a une taxe Toyota. C'est vrai qu'il y en a une. Toyota ne vendent pas leur voiture à faible prix. On a de l'intérêt qui est justement assez élevé. Et puis souvent, ce qu'on va essayer de beaucoup jouer, c'est de se dire, bien, on va l'avoir longtemps. Et souvent, c'est les gens qui vont se dire, je vais l'acheter, oui, peut-être avec un intérêt plus élevé, mais je vais essayer de le garder longtemps. Si je peux remettre les choses en perspective, tu sais, l'intérêt actuellement, j'en vois à 3, à 2, j'ai vu du 1,50% d'intérêt aussi dernièrement. Fait que 7%, c'est extrêmement élevé, puis c'est pas la norme actuellement. Mais que voulez-vous? 16 000 unités vendues en 2024, malgré que l'intérêt était haut comme ça, pareil. C'est un véhicule qui trouve preneur sans problème, puis ben, quand on est capable de les vendre, pourquoi amener l'intérêt à zéro? C'est payant. Okay, voilà.
Ils peuvent te financer maintenant sur 84 mois.
Oui, c'est des possibilités. Ce n'est pas tous les produits. Ce n'est pas possible nécessairement avec tous les véhicules. Il y a certains constructeurs qui ne vont même pas se rendre là. Eux ne l'offriront pas, ce genre de financement-là. Mais oui, c'est possible maintenant de le faire. C'est un financement qui c'est que je déconseille fortement, là, généralement. Là, c'est très rare que je conseille ça. À vrai dire, je ne suis jamais arrivé. Puis l'unique raison, c'est que la voiture, comme on se disait tantôt, elle est garantie durant un certain nombre de temps. Ouais. Moi, ce que je souhaite à tout le monde qui achète un véhicule récent, un véhicule neuf, c'est d'être capable, au moins durant la période de paiement du véhicule, d'avoir encore accès à une garantie quelconque. T'sais, on a des garanties complètes, qui souvent sont des 3 ans, 60 000 km. On a du 4 ans, 80 000 chez Volkswagen. On a du 5 ans, 100 000 chez les Coréennes comme Kia, Hyundai. Ça dépend toujours des compagnies. Mais on a généralement du 3 ans, 60 000 km. Puis moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est essayer de vous fier au minimum à la garantie moto-propulseur qui va couvrir moteur, transmission, qui va couvrir tout ce qui baigne dans l'huile, généralement. C'est à peu près ça. vous comprendrez que là, je ne peux pas vous donner une ligne claire parce que ça dépend toujours des fabricants, ça dépend toujours de ce qui est garanti ou non. C'est toujours important de s'informer à l'achat d'un produit. Mais quand on se fie un peu à la logique de la garantie motopropulseur, ce que j'aime comme conseil en faisant ça, c'est que si vous payez votre véhicule pendant 5 ans, mais qu'il est garanti sur les composantes majeures pendant 5 ans, si jamais il arrive un bobo majeur, justement, mais vous n'avez pas d'argent supplémentaire à sortir de vos poches, vous n'avez pas un paiement inattendu qui devra être fait avec un paiement qui est aussi en train de se faire de votre véhicule. Fait que quand on va sur du 84 mois, bien, il y a pas mal d'années où votre véhicule, c'est vous qui allez l'entretenir à 100%, puis c'est vous qui allez payer s'il y a des réparations. Fait que là, si vous avez un paiement qui vous mettait déjà serré dans un budget, puis qu'en plus, vous commencez à avoir des réparations vers le milieu de la vie, vers la fin de la vie du véhicule ou du moins du paiement, bien là, ça devient difficile des fois d'arriver à la fin du mois. Puis là, bien, je pense qu'on tombe dans des problématiques financières plus importantes. Fait que l'idée, c'est de sauver de l'intérêt également, d'être capable d'aller chercher un véhicule qui va se financer moins longtemps. Puis au moins, vous assurer que vous êtes garanti avec quelque chose pendant votre paiement de véhicule. Puis 84 mois, tu sais, Mitsubishi vont nous parler d'une garantie de 10 ans, là, tu sais, mais encore une fois, ça ne couvre pas tout. Il y a des petites clauses dans cette garantie-là aussi. Il faut faire attention également. Donc, tu sais, c'est pas un genre de financement que je conseille. Puis souvent, ce que j'ai envie de dire aux gens qui pensent à ce genre de financement-là, c'est peut-être une question aussi de produit. Peut-être que vous regardez un produit actuellement qui ne répond pas à votre cadre budgétaire simplement. Là. Puis ça vaut la peine de revoir les options parce que allez là, ça peut être risqué sur du long terme.
Est-ce que y a-t-il des grosses nouvelles là, qui arrivent pour le RAV4? Il va-t-il avoir des grosses modifications?
Nouvelle génération complète.
Au complet, là.
Nouveau style, nouvel intérieur. J'ai hâte de voir les groupes motopropulseurs aussi qu'on va vouloir proposer. Ouais. Tu sais, tantôt, je parlais des fameuses mécaniques hybrides qu'on a mis dans le Tacoma, qu'on a mis dans le Tundra, qu'on a mis dans d'autres produits. Est-ce qu'on va voir de quoi comme ça qui va arriver également dans des versions spécifiques du RAV4? Il y a des bonnes chances. C'est une nouvelle génération complètement qui va être présentée, comme je vous dis, très, très bientôt. C'est toujours un peu le jeu de notre domaine. On ne peut pas toujours tout dire qu'est-ce qui s'en vient parce qu'on signe des papiers et on ne peut pas tout vous amener comme information.
Ben, fait que tu sais des choses que tu ne nous dis pas à soir.
Que je ne peux pas dire parce que j'aime ce que je fais et je tiens encore à le faire. Donc je ne peux pas tout vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça s'en vient très, très, très bientôt. Donc, j'ai 3-4 personnes qui m'ont écrit sur ma page de Chroniqueur automobile dans les 3 dernières semaines. C'est quand qu'arrive le nouveau RAV4 2026? Il arrive quand le RAV4 26? Il arrive quand? Ça s'en vient vraiment bientôt. Soyez pas loin.
Bientôt, c'est quand ça, hein, Samuel?
C'est bientôt, là. Tu sais, moi, mettons, il y a bientôt. Il y a des journées, il y a des semaines, il y a des heures. Là, vois-tu, je suis dans un bientôt... très rapproché.
Samuel Tremblay-Michaud de RPM. Là, actuellement, les véhicules électriques, là, les dernières données que vous avez, je ne sais pas si tu les as au Québec ou encore au Canada, mais est-ce que ça a repris de plus belle avec les subventions ou on est encore dans la descente aux enfers pour les véhicules électriques?
Ben, tu sais, on n'a pas les données exactes de avril. On a les données de mars qui sont sorties. On sait que les rabais sont revenus durant une période avril, donc ça ne fait pas si longtemps que ça. Ils ne sont pas revenus au complet non plus, hein, d'ailleurs, là, mais les constructeurs, de leur côté, travaillent avec vous là-dessus. ce qu'on voit, c'est que durant le mois de mars, on a quand même eu une perte de 45% des ventes de véhicules électriques au Canada. C'est quand même une chute qui est assez marquée, là, mais honnêtement, on s'y attendait. T'sais, c'est pas une surprise. Il n'y a vraiment rien de choquant dans cette donnée-là. On le savait là, que justement, on avait connu une grosse année l'année dernière avec toutes les incertitudes entourant les rabais. On savait que ça avait amené de l'engouement. On savait que la disparition des rabais allait faire diminuer le nombre d'achats de ces véhicules-là. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de constructeurs qui appliquent des rabais encore. Et là, les rabais sont de plus en plus agressifs sur certains modèles qu'on veut écouler. Tu sais, regarde, on est dans la thématique Toyota, mais on a le BZ4X qui existe chez Toyota, qui est un véhicule électrique. On vient de présenter le BZ qui s'en vient, qui est une mise à jour complète. On a enlevé le 4X, on garde juste le BZ en avant. Puis on a fait une bonne mise à jour qui vient corriger plusieurs irritants qu'on avait du BZ4X. Mais les BZ4X qui sont actuellement disponibles dans les concessionnaires, on a du financement à 1,49% chez Toyota. C'est que ça, c'est assez rare. Et on a aussi des rabais appliqués du manufacturier. Là. On a un 4 ou 5 000 $ de rabais qui est offert actuellement. On a des rabais également provinciaux qui s'appliquent. Donc, on retrouve grosso modo actuellement en mai un financement autour de 1,49% et un 9 000 $ de rabais sur ces voitures électriques-là. Fait que là, on voit que justement, tu sais, on a eu une chute Puis cette chute-là, bien, c'est marqué en février-mars. Puis là, on va probablement réavoir des chiffres qui risquent de remonter tranquillement. Parce que, tu sais, au niveau mondial également, la demande a effectivement ralenti. Oui, l'instabilité avec le marché américain a amené ce ralentissement en partie, mais les chars électriques sont pas morts. Tu sais, des fois, j'entends du monde me dire « c'est fini ». C'est pas fini. Les chars électriques, il y a beaucoup de développements qui sont là-dedans et c'est encore une solution dans l'électrification des transports qui est sérieuse. Il y a des constructeurs comme Hyundai qui viennent de lancer officiellement le IONIQ 9, qui est un VUS 7 passagers électriques, qui est finalement offert dans le catalogue, qui arrive avec des statistiques de performance qui sont extrêmement présentes. On a du 500 km d'autonomie, on a un véhicule qui est spacieux, qui va répondre à plusieurs portefeuilles, bien garanti également. Et drôlement, le IONIQ 9 arrive dans les prix qu'on va avoir des VUS 7 passagers à essence réguliers, qui souvent, c'est des bons gourmands en essence. Et là, ça va devenir intéressant de mettre un face-à-face officiellement avec un produit électrique comme ça qui amène des spécifications d'autonomie beaucoup plus pertinentes. Les Coréennes ont une architecture de recharge électrique qui est très efficace. Et en plus, on est dans les prix de vente actuellement de des véhicules 7 passagers de la même grosseur, mais à essence, qui consomment et qui ont besoin d'entretien beaucoup plus. Donc là, drôlement, on arrive tranquillement, on dirait, vers un équilibre vers la voiture électrique qui va commencer à se comparer avec les voitures à essence. Moi, c'est ça que j'ai hâte d'arriver à ce niveau-là, de plus dire on compare juste les voitures électriques ensemble. Pour réellement amener quelque chose qui a du bon sens dans le marché, il faut qu'on soit capable de faire l'exercice. Ben, regarde, le IONIQ 9, je vais le mettre comparativement au Honda Pilot. Qu'est-ce que ça me donne au niveau de la consommation, des prix, du financement, le paiement par mois? Qu'est-ce que je vais avoir au niveau des assurances? Qu'est-ce que je vais avoir? Puis là, on va pouvoir jouer des mathématiques drôlement plus intéressante. Puis j'ai hâte de voir maintenant où est-ce qu'on va aller. Fait que la voiture électrique n'est pas disparue. Là. Il y a pas de... Je sais qu'il y a des gens qui sont contents, d'autres qui sont tristes, là, mais la voiture électrique n'est pas disparue. Ça, c'est clair et net. Puis,
je comprends pas ceux qui sont contents. Je pense que c'est une game avec le gouvernement. Là. C'est, les gens ne veulent pas se faire dire quoi faire puis quoi acheter. Moi, demain matin, si Sam, tu me dis « Yann, je viens de gagner au Lotomax puis je te donne la moitié, mettons 40 millions. » Tiens, parce que la semaine passée, c'était 80. Puis là, vu que tu m'apprécies, tu me donnes 40 millions. Moi, je te garantis que mon véhicule en ville, ça va être un véhicule électrique, là, sans aucun problème. J'aurais pu quitter la ville, tout simplement. Je vais juste rester chez nous. Puis quand j'aurai besoin de mon véhicule, ben, je le débranche. Puis je m'en vais faire mes petites templates. Puis je reviens à la maison après.
Ça, bon, puis je t'apprécie beaucoup pour 40 millions quand même, là, mais oui, ça me fait plaisir. Ben oui, ça me fait plaisir. Puis tu sais, si je gagne, mais la voiture électrique. Moi, présentement, je suis en renouvellement de voiture dans mon foyer, puis je me pose la question, là, tu sais, on a une voiture, nous, qui fait juste faire un boulot dodo, là, tu sais, la voiture, là, on en a besoin parce que le transport en commun n'est pas adapté à mes besoins. Fait que je serais capable de juste avoir un char qui roule électrique, moi, là, sans problème dans ma cour, tu sais.
C'est ça. C'est ce véhicule-là qui peut être électrique, Sam. Puis, tu sais, je te reviens un peu avec la même chose qu'on avait jasé la dernière fois. Moi, quand j'avais essayé pour la première fois un véhicule électrique, c'était un Mustang électrique. Mach-E. Ouais. Mach-E. Il fallait me faire tuer quand j'ai appelé ça Mustang. Mais j'ai essayé un Mach-E, puis ma grosse... j'étais extrêmement inquiet, là. Puis là, j'ai dit au gars qui voulait me faire essayer ça, parce que je partais pour 2 jours, je dis « Vas-tu en avoir assez? » Puis là, il dit « Ben, tu vas faire combien de kilomètres? » Puis là, je calculais mon affaire. Et tabarouette, à peu près 25 kilomètres, là. Mais ben, Diane... T'as une autonomie de 300 km. Qu'est-ce que t'en penses? On a tendance à surestimer nos besoins en kilométrage.
Tu sais, souvent, j'entends le « Ouais, mais je vais à Montréal une fois de temps en temps. »
Ouais.
Ben oui, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, je suis présentement, je vous parle à bord d'un Hyundai IONIQ 5, un produit qu'on a vu à grande lurette. C'est autant que le RAV4 est un vendeur majeur, tu sais, pour donner quelques chiffres sur le IONIQ 5, là, c'est un produit qui se vend extrêmement, extrêmement, extrêmement bien au Québec. On en a vendu 10 000 exemplaires l'année passée. T'sais. On a vendu plus de Hyundai IONIQ 5, qu'on a vendu de Honda CR-V, qu'on a vendu de Subaru Outback, qu'on a vendu des modèles qui sont très populaires. Puis, tu sais, je suis à bord actuellement du véhicule qui est à 93% de recharge au moment où je vous parle. Puis, selon l'auto, j'ai 465 km de disponible devant moi. T'sais, bien sûr, en roulant sur la grande route, il va consommer un peu plus, mais admettons que j'ai 465 km. Je me rends chez nous, moi, là. Il n'y a même pas de problème, même s'il consomme un peu plus. Même si j'arrive chez nous, puis il me reste à peu près une centaine de kilomètres de disponibles, je me suis rendu sans problème de Montréal à Québec. Ouais. Puis, tu sais, cette espèce d'idée-là que la voiture électrique est comme désuète, qu'elle va mourir dans l'œuf, que c'est un projet qui va être... C'est pas vrai. Les technologies avancent encore, puis tu l'as vécu toi-même, t'as pas haï ça. Je suis le premier à dire que j'haïs pas ça. Là où est-ce que j'ai beaucoup de difficultés, c'est que j'essaie de faire aller les chiffres. Puis malheureusement, dans le cas exemple d'un Hyundai Ioniq 5, quand je regarde le chiffre que ça me coûte d'acheter ce produit-là à la fin versus m'acheter une Mazda 3 ou m'acheter un Toyota Corolla, bien, c'est le double, même le triple du prix que je vais payer. Fait que sur mon paiement, ça n'arrive jamais que j'arrive à rentabiliser cet achat-là. Et même si je le prends pour faire boulot dodo, mais je ne consomme pas assez d'essence maintenant dans un Corolla qui va me faire un 6,5 litres ou 100 km en moyenne, je ne vais jamais arriver à rentabiliser en aucun cas la consommation de carburant de ce véhicule-là. Ça dépend toujours des scénarios, du nombre de routes qu'on fait par année. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais le vrai enjeu, même enlève les subventions, puis enlève tout, c'est que le prix de ces voitures-là commence à descendre. C'est là qu'il faut qu'on se rende. Il faut qu'on arrive à avoir des autos qui sont plus abordables pour, un peu comme le Ioniq 9, on soit capable d'arriver dans les mêmes prix que l'équivalent à essence. Et là, on va jaser. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas dans tous les modèles. Puis c'est ça qui fait mal encore à la transition énergétique. Mais non, moi, comme tu dis, je ne comprends pas non plus les gens qui sont autant en haine envers le produit. Mais je pense que tu as une belle analyse de te dire la manière qu'on le fait, par contre, c'était peut-être pas la meilleure des choses. On est arrivé en disant aux gens, vous n'allez pas avoir le choix. C'est ça, puis c'est tout.
Exact.
Ça, je pense que ce n'est pas la bonne manière d'amener de l'information.
Ah, oh, j'espère que ma blonde t'entend, Sam.
Bonjour.
Des menaces pour avoir ce qu'elle veut.
Oui, c'est ça.
Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, pour te lire, te voir, on peut te suivre à quel endroit?
Surtout Mulet.